Bon après-midi sur France Inter, il est 13h. Et on se téléporte à Avignon avec vous, Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Les bienvenus au pays du théâtre. Oui, le 13-14 à Avignon, où le 75e festival commence avec une intensité vraiment particulière cette année. Le directeur Olivier Py dit que c'est comme un retour aux sources après la guerre, comme avant, comme à cette époque quand tout était fragile. Alors plaisir, oui, de retrouver la scène, l'imagination, la fantaisie.
Ce soir, c'est une place achetée, une place offerte.
Ça fait plus que du bien, là. C'est
du monde, de la culture, donc voilà, ça fait du bien au corps et à l'esprit.
Un plaisir aussi de voir émerger une nouvelle génération de metteuses en scène, d'applaudir Isabelle Huppert dans la cour d'honneur, d'écouter ce que les artistes ont à nous dire de l'époque. Celui qui vient d'être nommé directeur pour les années à venir, le portugais Tiago Rodriguez, nous a accordé un entretien, bel hommage à la France. Inquiétude aussi, le monde du théâtre est fragile, la menace Covid est toujours là. Créateurs, acteurs, festivaliers, doudingues et intello, ils sont à notre micro. On commence dans un instant, puis après 13h20. D'abord les autres titres de l'actualité avec vous Olivier Bénis.
Bonjour Bruno, on se demandera pourquoi le gouvernement recommande de ne pas partir en vacances en Espagne et au Portugal. Simple conseil de Clément Beaune ce matin, mais un conseil qui a fait s'étrangler les professionnels du tourisme. Nous reviendrons aussi sur ce concert test d'Indochine fin mai. Les premiers résultats de l'essai sont arrivés. Ils sont rassurants. Ni les fans, ni Nicolas Sirkis n'ont été plus exposés au Covid. On en sait plus également sur la terrible vague de chaleur qui a frappé le Canada la semaine dernière, qui sans surprise porte bien la marque du changement climatique. Et sur la situation toujours tendue en Haïti 24 heures après l'assassinat de son président. Nous irons également à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme avant la 12e étape du Tour de France 2021.
Ici Sylvain Vaucluse et à la toute fin de cette émission spéciale Avignon, un passage par le Var et Cannes, Laurent Delmas nous dira ce qu'il pense du film de François Ozon. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Les rues bourrées d'affiches de spectacles, les festivaliers en Bermuda ou robe à bretelles, la cour d'honneur rénovée du Palais des Papes, les pièces programmées du matin à la nuit, les cigales en toile de fond, le vent aussi aujourd'hui, les cloîtres, parkings, écoles transformées en théâtre. D'ailleurs, c'est dans une cour d'école, celle des Ortolans, que nous sommes installés aujourd'hui. Voici l'utopie d'Avignon, plus précieuse encore, après les mois de fermeture. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Stéphane, vous m'accompagnerez tout au long de cette émission. Au moment où Avignon commence, il y a le grand plaisir des festivaliers et une grosse pointe d'inquiétude des professionnels.
Oui, le off a débuté hier, 1070 spectacles, il en avait 1592 en 2019. Alors le public sera-t-il au rendez-vous? C'est la grande question. On s'attend à une arrivée un peu plus massive des festivaliers ce week-end, mais les compagnies sont déjà au contact des premiers spectateurs et comme ce n'est pas encore l'affluence, eh bien chacun s'accorde du temps pour échanger lors du fameux tractage dans les rues.
C'est trop sympa. Avignon, c'est vraiment le sommet.
C'est une ambiance bien particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on ressent là le besoin de tous les comiques, les comédiens, Greg, le Belge, qui ont besoin de tout notre soutien et on est là pour les aider.
Oh, on est tous surboostés, moi je suis surexcité évidemment et on va voir si le monde arrive, mais il y a un petit peu de monde et puis la première semaine c'est toujours un peu plus calme. Donc voilà, là on va voir, mais on va tout donner.
On est une toute petite compagnie, on vient de Paris, c'est notre première Avignon et on est très très motivés. Parce que nous ça fait un an et demi qu'on n'a pas pu jouer notre spectacle, on joue au Théâtre des Barriques.
On est au village du Off et les spectatrices viennent chercher les flyers. En fait voilà, vous faites votre programme, c'est ça?
C'est ça, pour 3 jours. Là on est content de cette année que le festival soit à nouveau ouvert. Donc on vient faire notre petit marché, notre petite sélection.
Que recherchez-vous?
De tout, en général nos choix sont assez hétéroclites.
Comment vous le sentez cette année, cette édition?
Je pense que ça va être sympathique parce que tout le monde a envie. Tout le monde a envie de se retrouver. Je pense que les gens sont plus tolérants avec le tractage qui est quand même assez invasif pour eux, etc. Donc je pense que ça va être sympathique. Après, il faut espérer qu'effectivement les gens vont venir parce que sinon on va souffrir.
Et oui, que tous les gens viennent, c'est la question. En un mot, Stéphane, les temps forts de cette année à Avignon, quels sont-ils?
On a déjà parlé des comédiennes sur scène, Isabelle Huppert, bien sûr, dans La Cerusée. Puis il y aura Nicole Garcia dans Royan, une édition placée sous le signe de l'avenir, avec un désir de renaissance, des écritures dystopiques pour raconter le monde d'après, un peu sombre parfois. Mmh. Et puis mardi prochain, 2000 personnes dans la cour d'honneur pour fêter les 100 ans d'Edgar Morin.
Avignon, nous y revenons dans le corps du journal, les précautions sanitaires plus ou moins bien respectées. Et puis entre 13h20 et 14h, paroles de créateurs, metteurs en scène, comédiens, quotidien, des images, des mots, des histoires pour s'évader ou réfléchir sur l'époque. C'est passionnant, nous espérons vous faire partager ce plaisir. Pour l'instant, à 13h04, c'est l'actualité du jour avec vous, Olivier Bénis.
Et avec d'abord ce message, partez en vacances où vous voulez, mais idéalement pas en Espagne ni au Portugal. C'est à peu près ce qu'a dit Clément Beaune aux vacanciers français ce matin. Le secrétaire d'État aux affaires européennes s'inquiète d'un retour en force de l'épidémie de Covid dans ces deux pays, mais il l'assure, c'est une simple recommandation.
Il y a encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas réservé leurs vacances, qui se posent des questions. Je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. Mais je veux être clair, il n'y a pas d'interdiction de circuler au sein de l'Europe. Ceux qui ont réservé des vacances, il n'y a pas de problème, ils peuvent tout à fait le faire. Mais ceux qui réfléchissent encore, il y en a quelques-uns, leur destination de vacances, je pense qu'avoir une information sur la situation sanitaire est important. Et c'est ce message de prudence, de responsabilité de chacun que je veux passer.
Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Alors justement, pourquoi l'Espagne et le Portugal en particulier? Eh bien parce qu'ils subissent une flambée de contamination récemment, Nathalie Hernandez.
En Espagne, c'est la Catalogne qui connaît le plus fort regain de cas de Covid-19. En un peu plus de deux semaines, le taux d'incidence a été multiplié par 8, de 45 cas à 380 pour 100 000 habitants sur 7 jours. Et c'est bien le variant Delta qui est majoritairement à l'origine de ces contaminations. Sa cible, les 16-29 ans non vaccinés. Dans l'immense majorité, ils ne souffrent que de symptômes légers, mais les centres hospitaliers catalans ont vu les admissions pour Covid augmenter de 30%. Les autorités de Catalogne ont ainsi décidé d'accélérer la vaccination chez les jeunes pour éviter de voir ces hôpitaux débordés. Le Portugal, qui compte 10 millions d'habitants, s'inquiète lui aussi de la recrudescence de cas positifs, avec plus de 2000 contaminations par jour. C'est 4 fois plus que le mois dernier. Selon le ministère de la Santé portugais, le nombre de cas pourrait doubler d'ici la fin du mois.
Nathalie Hernandez, et cette recommandation d'éviter l'Espagne et le Portugal n'arrange évidemment pas le secteur du tourisme, y compris en France, secteur déjà exsangue après plus d'un an d'épidémie de Covid-19. Pour Laurent Habitbol, président de Havas Voyage, ce signal de Clément Beaune, justement ce matin, arrive au pire moment.
J'étais stupéfait. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Nous, c'est très grave pour nous. Des milliers de réservations, des gens qui partent, ils ne se rendent pas compte. Je ne peux pas accepter qu'on utilise la peur pour faire vacciner les gens. Imaginez pour nous des milliers de clients inscrits dans nos hôtels, tous les tours opérateurs français, je ne parle pas que de Havas Voyage, que de Saito, je parle de toutes les autres marques inscrites, des gens qui annulent par peur. Mais pour nous, c'est une conséquence énorme. Un mot d'un ministre peut nous massacrer. Il y aura rectification. On vient le confirmer. Heureusement. Mais faites attention, chers amis. On ne peut pas, nous, être dépendants de chaque mot d'un ministre. Mais heureusement que les vacanciers, ils en ont marre. Ils partent en vacances.
Laurent Habitbol, contacté par Philippe Lefebvre. Peut-on organiser sans risque un concert en intérieur avec 5000 personnes en fosse, sans distanciation, mais avec masque, ventilation, gel hydroalcoolique, test PCR 3 jours avant, le jour J et 7 jours après? C'est la question à laquelle devait répondre l'étude Spring via un concert test d'Indochine le 29 mai dernier à l'Accor Arena. Et la réponse semble être rassurante. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Selon les premiers résultats publiés par la PHP, il n'y a donc aucun sur-risque de contamination.
Non, alors il faut savoir que c'était la première étude du genre menée sur un nombre aussi important de participants et avec ce protocole, vous le disiez, de 3 tests successifs. Test donc le jour J, à J-3 et J+7. Pour rappel, on a constitué 2 groupes par tirage au sort, ceux qui sont allés au concert et ceux qui sont restés chez eux. On appelle ça le groupe contrôle et on a comparé. Conclusion, il n'y a pas eu plus de contamination dans ce public qui était dans la fosse, masqué, debout et sans distanciation physique. Le professeur Constance Delogère est l'infectiologue qui a coordonné l'étude.
7 jours après, nous avons trouvé 3 personnes positives parmi les 1947 participants du groupe contrôle. Dans le groupe concert qui sont venus à l'Accor Arena le 29 mai, nous avons trouvé 8 personnes sur les 3917 participants au concert. Ces incidences sont comparables. On peut clairement conclure à ce qu'on n'a pas déclenché de foyer épidémique. On démontre qu'il n'y a pas de sur-risque.
Autre enseignement de cette étude, l'obligation de porter le masque durant le concert a été bien respectée. Un système de capture d'image permettait de mesurer si les participants, ils étaient jeunes, moyenne d'âge du concert 27 ans, si ces participants donc portaient le masque au-dessus du nez, sous le nez ou carrément sous le menton. Manifestement, ils ont bien respecté les consignes.
Pendant les 4 heures entre l'ouverture de l'Accor Arena et la fermeture, donc entre 16 et 20 heures, l'adhérence au port du masque était de 91%. Donc on voit que les gens ont très bien porté le masque. Probablement ils l'ont enlevé parce qu'ils pouvaient boire de l'eau. Et donc, effectivement, on a une population qui était extrêmement adhérente, finalement, à ces mesures.
Alors, c'est vrai, l'étude a été faite le 29 mai dernier, à un moment, c'est vrai, où c'était surtout le variant anglais qui circulait en France. Est-ce que le variant Delta, plus contagieux, change la donne? On ne peut pas l'affirmer, mais il est probable, d'après l'infectiologue, que le port du masque chirurgical suffit à s'en protéger tout aussi efficacement.
Merci Véronique Julia. Et puis, pour plus de détails sur cette étude, vous pouvez retrouver un article complet sur franceinter.fr. Une étude qui donne donc un signe encourageant pour les événements culturels, y compris le Festival d'Avignon, Bruno.
En effet, cela dit, même ici à Avignon, Olivier, Avignon où l'on vit pour le théâtre toute la journée, eh bien le Covid fait partie de la mise en scène.
Messieurs, dames, bonsoir. Pensez à préparer l'entrée en salle. Mettez vos masques sur le nez. En tout cas, préparez-les, s'il vous plaît. Il y aura une fouille des sacs. Merci de préparer vos sacs. Bon spectacle!
C'était hier soir dans la file d'attente devant la cour du lycée Saint-Joseph avant le spectacle d'une de nos invitées dans quelques minutes, Anne-Cécile Vandalem. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Avignon, au temps du Covid, Sarah, il y a les règles sanitaires. Et ce qu'en font les festivaliers?
Et ces deux spectatrices dans la file sont toutes à leur retrouvaille avec Avignon.
Mais enfin, le festival, l'année dernière, n'a pas eu lieu. On est bien contents effectivement, que 2021 se tienne. Ouais.
Et le Covid ne gâche pas la fête,
non.
Les masques?
Non.
Non.
D'abord, je ne mets pas mon masque.
Je crois que vous n'êtes pas la seule en centre-ville.
Non, je ne suis pas la seule.
Pourtant, le masque est obligatoire de midi à 2h du matin dans le centre-ville où il y a foule, dans les salles là où tout le monde le porte. Les théâtres ouvrent grand pour aérer. La préfecture a aussi prévu des lieux de dépistage et de vaccination. Mais là, aucune affiche en centre-ville. C'est à l'extérieur des remparts qu'on vaccine et tout doucement.
60-70 personnes dans une journée, c'est pas beaucoup. Moi, c'est Benjamin, je suis à l'édition des certificats de vaccination. C'est vrai qu'au niveau de la communication, ça manque un petit peu et c'est pas super bien indiqué non plus.
Peu de festivaliers, plutôt des Avignonnais qui profitent de l'occasion.
Il restait une dose et j'ai croisé une dame dans la rue qui m'a proposé. Pour la suite, après, de toute façon, si je veux bouger ou quoi, voyager, il faudra sûrement le faire, donc... Ça y est, je suis vaccinée.
Ce médecin retraité, venu prêter main forte, regrette ce manque d'affluence.
C'est un peu pareil au centre départemental qui est un peu plus loin. Encore hier, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de places vacantes, malheureusement d'ailleurs, parce que surtout avec les festivals, avec les vacances, je pense qu'on peut être inquiet quand même pour les mois qui viennent.
Mais le festival ne fait que commencer. Si vous voulez en profiter pour vous faire vacciner, il y a donc de la place. C'est sans rendez-vous et rappelons-le, c'est gratuit.
Et selon les derniers chiffres de Santé publique France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celle où le variant Delta est le plus prédominant dans les nouveaux cas de Covid. 64% des nouveaux cas. Il est 13h12, la suite du journal sur France Inter avec vous Olivier Bénis.
Cédric Jubilard reste en prison. La cour d'appel de Toulouse statuait aujourd'hui sur la demande de remise en liberté du mari de Delphine Jubilard, accusé d'avoir tué la jeune femme portée disparue depuis le mois de décembre. Sa demande a donc été rejetée ce matin. Et puis justice toujours, on apprend aujourd'hui que l'ADN retrouvé sur les ossements découverts le 24 juin dans le Gard est bien celui de Lucas Tronche. L'adolescent de 15 ans avait disparu en mars 2015 en se rendant à un cours de natation. Un indépendantiste kanak à la tête du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. C'est une première depuis l'accord de Nouméa en 1998. Louis Mapou a donc obtenu la majorité des votes des 11 membres du gouvernement local. Les intempéries du mois de juin ont fait, elles, 550 millions d'euros de dégâts en France, selon la Fédération française de l'assurance. Au total, 235 000 sinistres ont été recensés suite aux orages et inondations qui ont frappé le pays entre le 16 et le 29 juin. A l'inverse, le Canada, lui, suffoquait la semaine dernière. Vous vous en souvenez sans doute, jusqu'à 50 degrés Celsius dans le village de Lytton, en Colombie-Britannique. Plus d'une centaine de morts. Et pour les experts, pas de doute, cette vague de chaleur aurait été presque impossible sans le changement climatique. C'est la conclusion d'une étude réalisée par un réseau international de scientifiques qui analyse les événements météorologiques extrêmes à travers le monde, dont justement les dernières montées fulgurantes de température au Canada et aux États-Unis. Sandy Dauphin.
Battre des records de température, c'est une chose, mais les pulvériser de 4 ou 5 degrés, comme cela a été observé au Canada et aux États-Unis, c'est ce qui surprend le plus la vingtaine de scientifiques du réseau international WWA qui ont analysé cette vague de chaleur. Parmi eux, le climatologue Robert Votard, directeur de l'Institut Paul-Simon Laplace.
L'événement est tellement exceptionnel, on a beaucoup de mal à caler un modèle statistique sur des records aussi importants. on est un petit peu sidérés tous, je pense qu'il faut le dire.
Cette vague de chaleur s'est formée en raison de conditions météo exceptionnelles, mais pourquoi de tels records de température ? Les scientifiques reconnaissent qu'ils ne comprennent pas tous les mécanismes à l'œuvre. Une certitude, en revanche, cette vague de chaleur hors norme aurait été presque impossible sans le changement climatique.
Le réchauffement climatique pour toutes les vagues de chaleur qu'on a pu analyser a toujours montré un effet qui est d'augmenter l'amplitude et la fréquence de ces vagues de chaleur. Dans le cas qui nous concerne, ce qui est certain, c'est que le changement climatique n'a pas arrangé les choses et a certainement poussé cet événement environ 2 degrés au moins de plus que s'il n'y avait pas eu de changement climatique.
Une vague de chaleur d'une telle amplitude reste encore rare, mais elle doit quand même nous alerter, disent les scientifiques, d'autant qu'elle est survenue à la même latitude qu'une ville comme Lille.
875 millions d'euros, c'est le montant total que devront payer Volkswagen et BMW. Les deux constructeurs allemands sont accusés par la Commission européenne d'entente pour ne pas trop réduire les émissions polluantes de leurs moteurs diesel, alors qu'ils possédaient pourtant la technologie nécessaire pour faire mieux. Un troisième constructeur, Daimler, a échappé à la sanction en dénonçant justement cette entente dont il faisait partie. Haïti, en deuil et encore sous le choc après l'assassinat hier de son président Jovenel Moïse par un commando dont 4 membres ont été tués la nuit dernière par la police locale. 2 autres mercenaires auraient également été arrêtés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui, signe de l'inquiétude de la communauté internationale. Car dans le pays qui n'allait déjà pas très bien, ces dernières 24 heures, l'ambiance est devenue de plus en plus pesante, Juliette Pierron.
À Port-au-Prince, tout semble suspendu, sur le point de basculer à tout instant. Luis de Pino Santos représente l'ONG Solidarité Internationale en Haïti.
Les rues sont plutôt désertes. Tout le monde a tendance à rester chez soi. Il commence à y avoir des routes bloquées, soit bloquées par la police, soit par des manifestants qui brûlent des pneus. On craint que la situation dégénère d'un seul coup.
Depuis quelques mois, des gangs se disputent la ville de Port-au-Prince et la violence est telle que des quartiers entiers se sont vidés de leurs habitants. Ils ont trouvé refuge dans des camps improvisés. Pierre Mandiara est chef des opérations à Médecins Sans Frontières. Il revient d'un mois de mission.
C'est très difficile de se déplacer d'un quartier à l'autre. Il y a en permanence des routes bloquées, des attaques, des opérations de police. Nous avons un collègue à nous haïtien qui, un jour où il revenait du travail, a été victime d'un braquage pour lui voler sa voiture alors qu'il était coincé dans un bouchon. Il a été tué.
Une situation chaotique et difficile à décrypter.
Les ficelles de ce qui se trame et de ce qui se joue derrière toute cette violence. Je suis pas sûr que qui que ce soit d'ailleurs en ait la vision globale et tire des ficelles. Je pense plutôt que c'est aussi une situation qui est en grande partie hors de contrôle.
En attendant plus de clarté, les ONG sur place ont toutes réduit leurs activités au maximum.
Juliette Pierron pour la rédaction internationale de Radio France. La Hongrie, sous le regard noir du reste de l'Union européenne, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la loi hongroise interdisant notamment la diffusion de contenus promouvant l'homosexualité. Un texte largement dénoncé par l'UE, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle même de véritable honte pour le pays. Et puis c'est ce qu'on appelle le sens du timing. Le président du CIO, Thomas Barr, vient d'arriver à Tokyo 2 semaines avant l'ouverture prévue des Jeux Olympiques, le 23 juillet, mais aussi pile au moment où le gouvernement japonais annonce un nouvel état d'urgence pendant la durée des JO, qui devront a priori se dérouler sans public. Une annonce qui réjouira les fans du PSG. Le club vient d'annoncer officiellement le recrutement de Sergio Ramos, l'emblématique défenseur espagnol. Son contrat courra jusqu'en 2023. Et direction la ligne de départ du Tour de France, en attendant donc le début de la 12e étape aujourd'hui, 159 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Olivier.
Et on sait déjà que le départ va être retardé à cause du vent.
Oui, de fortes rafales de vent qui soufflent ici dans la Drôme. Et résultat, pour les besoins des retransmissions télévisées, on a retardé ce départ de 10 minutes. Alors rassurez-vous, hein, va quand même y avoir la course. 159 km au programme, départ à 13h50. Du coup, et vous l'entendez certainement dans le micro, effectivement, il y a de fortes rafales de vent actuellement. À noter, Olivier, un nouvel abandon, celui du septuple vainqueur du maillot vert à Paris de meilleur sprinter, celui de Peter Sagan, le Slovaque, qui ne prend pas le départ. Il est venu s'en expliquer ce matin auprès des journalistes et problème au genou. En revanche, des nouvelles rassurantes de David Godu, dont on vous parlait ce matin sur France Inter. Il va mieux, il ne vomit plus et il est bel et bien au départ ce matin, mais que d'abandon et il faudra se méfier aujourd'hui pour une étape promise aux sprinteurs. Du vent, ça pourrait faire des dégâts avec ce qu'on appelle en cyclisme des bordures et résultat un peloton qui se retrouve brisé en deux et des favoris qui pourraient perdre du temps. Donc malgré une étape de plaine, il peut se passer des choses aujourd'hui lors de cette 12e étape.
Merci beaucoup Fanny Lechevestrier, vous étiez avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques et puis on vous retrouvera sur la ligne d'arrivée à Nîmes, pas très loin d'Avignon d'ailleurs. Et j'ai vérifié, Bruno, si vous partez en vélo juste après le 13-14, vous pouvez être sur la ligne d'arrivée à 16h22 précise, largement avant le peloton.
Oui, enfin, faut que j'aie le vent dans le dos. Hein. Pour l'instant, il y en a pas mal de vent ici aussi à Avignon. 26 degrés, 26 aussi à Cannes, Alpes-Maritimes et non pas Var, comme je l'ai dit, évidemment, au début de ce journal. C'était le journal d'Olivier Bénis, le temps de ce jour.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Cala, qu'est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Élodie.
Oui, je vous entends. Bonjour Bruno, bonjour à
voilà,
tous.
Voilà, météo en V, venteux ici, variable ailleurs et des averses.
Oui, des averses et des orages des Alpes jusqu'à l'Alsace. Alors sur le reste du pays, un ciel changeant, des nuages, quelques averses, des éclaircies. Du Lyonnais vers la Lorraine, un coup de tonnerre n'est pas exclu. Plus de nuages tout de même vers l'intérieur de la Bretagne, sur les Pyrénées. En revanche, c'est vraiment le soleil qui va dominer sur les côtes de l'Ouest et du Nord, et surtout autour de la Méditerranée. Mais là, c'est au prix du vent, jusqu'à 70 km/h attendu pour la Tramontane, le Mistral, mais également le vent d'Ouest du Var à la Corse. Et les températures, elles sont toujours justes pour la saison. 18 degrés à Granville, 21 à Dijon, à Grenoble, 22 à Lille, à Angers ou à Bordeaux, 24 à Paris, jusqu'à 28 à Marseille et 30 à Bastia. Et puis demain, ce sera quand même plus calme, Bruno.
Merci Élodie Calac, Météo France. Le 13-14 en direct d'Avignon. Dans un instant, entretien avec celui qui vient d'être nommé directeur du festival, le Portugais Thiago Rodrigues, premier étranger à occuper ce poste. Et il parle très joliment de la France. À tout de suite.
Ah, les vacances.
Arthur, reviens ici.
Allez, avance.
Et puis, il y a l'Auvergne, la magie des volcans millénaires, l'enchantement des lacs et des rivières sauvages, la sérénité des villes thermales, la douceur des villages et leurs tables gourmandes. Alors, avis à tous les aventuriers, les curieux, les épicuriens, les contemplatifs, ceux pour qui le voyage sera toujours source de liberté. Partons ensemble explorer l'Auvergne pour partager toutes les émotions du monde. Inspiration et vacances insolites sur auvergne-destination.com.
Lily savoure une petite pépite française. Vous voyez de quoi je parle? Non, c'est pas du gâteau. Je parle de son lit. Fabriqué en France, comme 78% des produits Camif. Craquez pour un lit enfant sur camif.fr. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
France Inter aime
Annette, le nouveau film de Léos Carax, en compétition officielle au Festival de Cannes, avec Adam Driver et Marion Cotillard. We love each other so. Une histoire d'amour fou, magnifique, cruelle, sombre et lumineuse. So Annette de Léos Carax, d'après une idée originale et une musique de Sparks, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Il est 13h22.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Et mesdames, messieurs, le Festival d'Avignon bat son plein. Les trompettes de Maurice Jarre qui annoncent traditionnellement le début des spectacles dans le Inn. Et nous sommes de retour dans cette cour de l'école des Ortolans, ici dans la ville d'Avignon, où tout n'est que théâtre depuis lundi. Et en ce début de festival, un homme est incontournable, Thiago Rodrigues. Il a 44 ans, il est portugais, il dirige l'équivalent de la Comédie française à Lisbonne. Cette année, c'est lui qui met en scène le spectacle d'ouverture dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un grand classique, la Cerisaie de Tchekhov. Isabelle Huppert en Liukov, cet aristocrate russe qui voit son monde s'effondrer. Adama Diop en Liopakine, ce nouveau riche qui rachète la Cerisaie. Mardi, les spectateurs ont attendu une heure, stoïque et même joyeux, sous la pluie, pour applaudir les acteurs. La scène humide, le bas de pantalon d'Isabelle Huppert trempé. c'est aussi cela Avignon. Et le jour de l'ouverture, la nouvelle est tombée. Le futur directeur du festival, ce sera lui, Thiago Rodriguez. Il succédera à Olivier Py en 2023. Il nous a accordé une interview pendant l'entracte de la pièce Fraternité, dont on parle dans un instant. C'était hier après-midi. Derrière nous, cigales et rumeurs de la foule qui prenaient l'air quelques minutes avant de retourner dans la salle. Lui, barbe brune, sourire et amour touchant de la France. Bonjour Thiago Rodriguez.
Bonjour.
Ce festival d'Avignon, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Déjà, c'est une passion depuis la première visite en 2015, en tant qu'artiste avec un spectacle, Antoine et Cléopâtre, qui se jouait au Théâtre Benoît XII, mais aussi en tant que spectateur. Voilà, c'est une fête de liberté artistique, de diversité esthétique, mais surtout de rencontre avec un public avide, passionné, qui respire théâtre 24 heures sur 24 heures, qui discute avec les artistes, qui se rencontrent. C'est un peu le pays du théâtre. C'est un moment où on se rend compte que pour plein de nous, les humains, le théâtre est aussi au centre de nos vies. Alors faire du théâtre et vivre cela m'a bouleversé énormément et depuis 2015, je suis vraiment un passionné d'Avignon.
Alors la direction, c'est pour 2023. Vous avez déjà des projets, des envies? On entend les trompettes de Maurice Jarre là derrière nous qui signale que le spectacle va peut-être reprendre assez vite. Déjà des envies, des projets?
C'est très tôt pour en discuter des projets, des envies, bien sûr. L'envie de continuer à contribuer à cette utopie qui est le Festival d'Avignon, parce que si ce n'est pas une utopie, ce n'est rien, le festival. Bien sûr qu'il y a plein d'idées et de convictions, mais je pense que ce n'est pas encore le moment de les partager, en plus parce qu'on vit une édition tellement forte, tellement émotionnelle aussi, de retrouvailles avec le public, entre public et artistes, de rassemblement, de retourner au festival après un an de silence, disons. C'est tellement fort le présent que je pense qu'il faut l'écouter pour pouvoir mieux parler de l'avenir bientôt.
Vous serez le premier étranger à diriger le festival. Ça, c'est une responsabilité particulière. Comment vous le vivez ?
Ça m'aide à contribuer à quelque chose que depuis des années, des décennies même, je trouve dans mon rapport avec la France. France, pays d'accueil, société ouverte, diverse, curieuse. Alors moi, je sais qu'il y a un signe politique, bien sûr, un signe social, bien sûr, qu'il y a un étranger, un non-français qui dirige le Festival d'Avignon, alors que j'ai un rapport très fort avec la France depuis longtemps. Mais ce signe, moi, ça m'aide à savoir que je vais aussi contribuer à cette idée, pas seulement de France, mais d'Europe ouverte, diverse et surtout croyante aux rencontres avec l'autre.
Le rapport très fort avec la France, il vient d'où ?
C'est un rapport qui est déjà familial parce que pas mal de gens de ma famille étaient ou émigrés économiquement en France dans les années 60 ou même exilés politiquement. Alors il y a ce rapport d'enfant qui grandit au Portugal, déjà en démocratie, en sachant qu'on doit à la société française d'être la démocratie plus proche qui a accueilli beaucoup des gens qui se battaient pour la liberté, pour l'égalité au Portugal. Et après, c'est un rapport d'artiste, de professionnel. J'ai commencé à travailler pour la première fois en 2001 au Théâtre Garonne à Toulouse en parlant très très mal, encore pire, le français. Et après j'ai fait un parcours très long depuis les derniers 20 ans, pendant les derniers 20 ans en France je dois avouer que mon parcours il appartient un peu à ce que j'ai appris en France, le théâtre que j'ai vu et lu en France, les débats que j'ai eu en France et surtout aussi les possibilités de travail que j'ai eu à cause d'un public et d'une scène française curieuse, ouverte, qui m'a soutenu et qui continue à me soutenir.
Vous mettez en scène également un spectacle cette année. C'est une très grosse année pour vous. Le spectacle qui a fait l'ouverture dans la cour d'honneur, La Cerisaie de Tchekhov. Comme c'était le spectacle d'ouverture, il en a déjà été question. Juste un point sur ce spectacle. J'ai été frappé par la diversité de la troupe, diversité des couleurs des costumes, des couleurs de peau, des profils. C'est important de jouer Tchekhov en 2021 avec une troupe diverse.
La diversité des ethnicités, mais aussi des expériences théâtrales de la troupe, est juste une réalité normale parce que c'est possible. Par exemple, Adama Diop est l'acteur que je trouvais qui était le meilleur acteur pour jouer l'Opakine. Isabelle Huppert, elle est pas russe et elle joue Lyubov. Et c'est possible, c'est tellement beau qu'au théâtre, on peut le faire, qu'on peut faire une distribution qui appartient à notre société et à notre temps.
Merci beaucoup, Thiago Rodriguez.
Merci.
Thiago Rodriguez hier pendant l'entracte de Fraternité Contes Fantastiques dont nous allons parler maintenant. Une troupe de théâtre, c'est l'humanité incarnée par un groupe d'hommes et de femmes. Une pièce de théâtre, ce sont des mots, des images pour se souvenir de l'avenir. Se souvenir de l'avenir, c'est la formule fil rouge du festival cette année, après ces mois où on en a souvent réfléchi au monde d'après. Et on ressent très fortement cela en assistant aux deux pièces de nos invités à présent. Bonjour Anne-Cécile Vandalem.
Bonjour.
Et bonjour Caroline Guyelin-Guyenne.
Bonjour.
Deux metteuses en scène, c'est une des particularités de ce festival cette année, la quasi-parité parmi les artistes invités dans le IN. Vous avez toutes les deux à peu près le même âge. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une génération grâce à laquelle les femmes se sont finalement fait toute leur place dans la création théâtrale? Anne-Cécile Vandalem.
Waouh, c'est un grand programme. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein.
Encore.
C'est pas fait.
Non, c'est pas fait.
C'est le début de quelque chose. Ouais. Peut-être, j'espère qu'il doit continuer, mais il y a encore énormément de travail. Et je pense que oui, effectivement, en tout cas, nous, on assiste à un changement. Voilà, ouais. Probablement, on assiste effectivement à cette parité aujourd'hui au sein du festival. Le fait que la parité soit maintenant une imposer, c'est-à-dire que ça soit un critère qu'on s'impose, qu'on ouais. ose s'imposer, ouais. qu'on ne soit plus chatouilleux avec ça. Ça, c'est un énorme changement qui a pris. Il y a deux ans d'ici, on ne l'imposait pas comme on le fait maintenant, mais c'est pas encore gagné. On le fait pas partout. On n'a pas le même souci. Partout de cette parité.
C'est pas partout. Olivier Py dit notamment que c'est plus facile de trouver des metteuses en scène en France. Vous tournez toutes les deux, vous travaillez aussi beaucoup à l'étranger. Il y a plus de metteuses en scène en France que dans d'autres pays. Caroline Nguyen.
Écoutez, alors là, du coup, ça serait un petit peu difficile pour moi de faire le bilan des autres pays où je travaille. Effectivement,
j'ai l'impression que.
Non, mais j'ai l'impression que, effectivement, cette question se pose tout le temps de partout où je vais. Ça, c'est clair que le fait d'être une femme, ça reste encore une spécificité. Ça reste quelque chose que l'on regarde, ça reste quelque chose que l'on remarque. Et donc, du coup, ça, déjà, ça pose un problème, ça pose une question. Ouais. Alors, bon, tout à l'heure, vous posiez la question de est-ce qu'on se sent appartenir à une génération? En fait, j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question, mais ce que je sens, peut-être aujourd'hui, c'est que mes contemporains, parce que j'ai pas envie de dire oui, ceux de 20 ans se posent des questions et ceux de 60 ans s'en posent d'autres, mais en tout cas mes contemporains actuellement sont en train de vivre, et je pense que c'est bien la question de qui est représenté et qui raconte les histoires, et que ça, je pense que c'est en travail, qu'effectivement il y a énormément à faire, qu'effectivement il y a la question des femmes, mais il y a aussi qui on représente, il y a la question de qui écrit, quels sont les gens qu'on a sur les plateaux, quels sont les gens qui sont derrière le plateau, et que ça, je pense que c'est la question, en fait, pas tant de notre génération, mais la question de notre monde actuellement.
Alors,
vraiment, et donc de notre théâtre.
Commençons par là, votre spectacle Fraternité Contes Fantastiques. Je résume l'histoire dans un instant. D'abord, ceci, la troupe mélange comédiens amateurs et professionnels. Alors on parle souvent de diversité, là elle saute aux yeux, il y a notamment ces deux comédiens assez âgés d'origine vietnamienne, je pense, deux rappeuses, une américaine un peu coincée, en tout cas le personnage, il y a un chanteur lyrique contre-ténor, voilà, il y a en fait des gueules, des corps, des façons de bouger, de parler, presque je dirais une partie du monde qu'on ne voit pas d'habitude.
Qu'on ne voit pas d'habitude sur les plateaux théâtre, ouais. mais qu'on voit d'habitude dans le monde.
Ouais.
Et donc c'est bien là la question, ben oui bien sûr, mais en fait c'est ça en fait le sacerdoce que moi je me suis fait avec la compagnie, avec même la production avec qui je travaille, c'est de se dire en fait je ne raconterai plus jamais aucune histoire sans avoir la sensation que le monde y est. Alors le monde évidemment c'est vaste, hein. Évidemment que le monde c'est multiple, évidemment que c'est... Mais par contre ce que nous offre le monde aujourd'hui c'est la rencontre des mondes, c'est des gens qui viennent absolument d'espaces sociaux, culturels, spirituels, différents, et que c'est ça aujourd'hui notre grande question, j'en reviens toujours à ça, c'est comment est-ce qu'on rencontre l'autre dans tout ce qu'il est autre, et en même temps comment est-ce que le théâtre est un lieu où on peut réunir des gens et se dire, et si on racontait une histoire ensemble? Donc en fait oui, c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en scène, et c'est mon point de départ.
Alors la moitié de l'humanité disparaît après une éclipse de soleil. Vous avez imaginé un centre de soins et de consolation où l'on accueille ceux qui ont perdu un proche et où ils essayent de reprendre contact avec eux. Et cette idée de centre de consolation vient de deux structures réelles. Un bureau de rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge et un centre des disparus à Rome. Racontez-nous ces deux structures qui vous ont inspiré.
Alors malheureusement, le centre des disparus à Rome, je n'ai pas pu y aller parce que ça tombait exactement pendant la période du Covid où du coup je ne pouvais pas partir de France. Par contre, le bureau des rétablissements des liens familiaux, j'ai passé effectivement beaucoup de temps. Puis même, il y a une personne qui est devenue bénévole dans la compagnie dans ce bureau. Donc en fait, c'est un lieu qui s'est inventé par la Croix-Rouge et c'est assez beau. C'est en fait pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est fait que tout d'un coup, un soldat a dit à une infirmière, donnez cette lettre à ma mère pour lui dire que je vais mal et que je vais mourir. Et en fait, de là est né finalement ces messages Croix-Rouge, donc en fait, qui est que quand une personne est éloignée de sa famille, on peut lui donner des nouvelles de son enfant, ou de son fils, enfin de son fils, de cet enfant, de ses parents. Et donc tout ça part d'un droit qui lui aussi est très fort, oui. Qui est que tout être humain a droit de vivre à côté de la personne qu'il aime. Mmh. C'est par exemple le même droit qu'a un détenu quand il est en prison, de voir sa famille. Ce n'est pas une récompense, c'est un droit. Il a le droit de voir sa famille à un parloir. À partir de là, le Bureau des rétablissements des liens familiaux s'est du coup développé, et actuellement, évidemment, il se retrouve face à aussi une des grandes questions aujourd'hui, qui est la question effectivement de la migration, et donc de toutes ces personnes qui se séparent, hein, qui se perdent en fait, hein, sur un parcours d'exil, des gens qui ne prennent pas le même bateau, et puis en fait on a l'impression qu'actuellement c'est très facile de se retrouver, et ben non, c'est très facile de se perdre, et donc en fait ce Bureau des rétablissements des liens familiaux passe comme ça du temps à essayer de rétablir le lien entre des gens qui se sont perdus dans le monde.
Voilà. Et c'est ce qui se passe aussi dans la pièce. Anne-Cécile Vandalem, je présente vos spectacles Kingdom dans un instant. Là aussi, question sur la troupe qui mêle des comédiens professionnels, deux chiens, et puis des enfants. C'est quasiment la moitié de la troupe, les enfants. Comment amène-t-on des enfants à tenir 1h40 sur la scène d'Avignon, en précisant qu'une des particularités de votre théâtre, c'est qu'il est filmé et retransmis en direct. Donc ils sont à la fois sur scène et devant la caméra.
Ben d'abord, on les habitue à passer beaucoup plus de temps qu'1h40 sur le plateau. Ouais. Donc, ça, c'est
ils
un
sont
peu...
beaux, ces enfants.
Oui, ouais. Ils sont beaux. Ah, ouais. Mais pas que, du tout. Mais voilà, l'idée, c'est vrai. On essaye de construire des mondes pour raconter des histoires. Et donc, il s'agit avant toute chose de faire rentrer chaque acteur, chaque personne qui intègre ce monde dans ce monde. Et ouais. Donc, c'est passé énormément de temps. Ces enfants ont passé beaucoup de temps au sein de cet endroit que j'appelle le Kingdom, donc le lieu dans lequel ces enfants sont nés, ont grandi, s'appelle le Kingdom, et ils ont techniquement, enfin voilà, on a fait des très très longs travaux d'improvisation où d'entrée de jeu la caméra est là toujours, et on travaille à instaurer un rapport entre cette caméra et eux-mêmes. Ici dans l'histoire, en plus, ces réalisateurs sont présents puisqu'ils ouais. filment leur histoire, ils viennent quelque part à la fois se nourrir de leur histoire pour faire leur film, mais aussi ils viennent un peu comme le sentiment, en tout cas pour cette famille, de pouvoir réclamer justice au monde extérieur de ce qui leur arrive. Et donc il s'agissait de créer un lien avec tout ça.
Kingdom, royaume, l'histoire de deux familles qui s'exilent dans la taïga sibérienne pour refaire complètement leur vie au milieu de la forêt. Alors le décor est impressionnant, une forêt, une rivière, des cabanes. Deux caméramens viennent donc pour filmer et raconter leur histoire. Mais au fond, dans cette utopie, on comprend très vite qu'il y a quelque chose de bancal, qui vont être rattrapés par le passé familial, comme si on ne pouvait jamais repartir d'une page blanche.
Non, je pense que la sensation de pouvoir repartir d'une page blanche est probablement une des raisons qui fait qu'on s'égare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page blanche.
Voilà.
Donc, et ça, c'était ma volonté dans ce spectacle, dans l'idée de si potentiellement il est possible de réactiver un futur, qui était cette question. Voilà, peut-on aujourd'hui pour ces générations à venir et ces générations qui sont là déjà, ouais. qui sont en train de grandir avec la catastrophe qui s'annonce de partout, évidemment assumer cette catastrophe potentielle, en tout cas ce dérèglement, mais aussi réactiver ce futur. Et pour moi, c'est pas nécessairement en regardant le passé et en se disant il ne faut pas reproduire, parce que ça j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, ouais. c'est-à-dire c'est en assumant autrement le passé et en allant chercher dans ce passé les endroits par lesquels potentiellement on peut re-raconter notre futur.
Stéphane Capron, vous êtes resté avec nous. Une question.
Alors, il y a beaucoup de choses en commun dans vos deux spectacles. On a parlé de la distribution. Il y a également votre approche de l'écriture, parce que vous partez de vos rencontres, vous partez également de votre imaginaire. Vous ne partez pas de textes dramaturgiques déjà écrits. Vous vous sentez plus libre en cultivant votre propre langage théâtral d'autrice à l'une et l'autre. Caroline.
Oui, en tout cas, ce qui est important, c'est que le fait de faire venir, je reviens aussi toujours à cette question-là, des comédiens qui viennent d'horizons différents, professionnels, non professionnels, c'est que chacun arrive, mais même comme nous autour de cette table, avec sa langue, en fait, que sa langue, en fait, c'est un transport qui raconte déjà plein de choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est important finalement d'être déjà en présence de ces langues qui, du coup, ont chacune leur façon de vivre une émotion, de vivre une situation, de la parler, et donc de la préserver un maximum pour tout d'un coup en donner finalement, enfin les préserver et que ça devienne tout d'un coup un texte de théâtre. Donc c'est aussi ça, finalement, c'est à la fois une liberté, mais aussi une responsabilité face aux gens. Enfin, c'est l'ADN du travail, en vérité. Je pourrais pas prendre ces comédiens-là. enfin je sais pas, je l'ai jamais essayé, et leur faire jouer un texte déjà écrit où il faudrait que eux-mêmes finalement rentrent dans une langue qui est encore ailleurs, même si c'est très très beau et évidemment j'aime les auteurs, mais en tout cas là notre façon de travailler, et voilà le pacte qu'on fait avec eux, c'est de tout d'un coup de les prendre avec leur langue et avec toutes ces langues là en faire finalement un objet de théâtre, une langue de théâtre.
Anne-Cécile Vandalem, je reviens aux enfants. Dans la pièce, ce sont eux qui défendent et se révoltent pour défendre l'utopie. Comme si, au fond, le poids des responsabilités, on voit bien ce qui est en toile de fond, le changement climatique, nos changements d'habitude, comme si tout ça reposait sur les épaules des enfants, ce qui est quand même extrêmement lourd.
Surtout pas. C'est vraiment surtout pas ce que je veux dire. Mais effectivement, il y a une prise, c'est-à-dire qu'il y a la question qui est opposée dans cette histoire et qui a été pour moi quelque part une épreuve de pouvoir la poser, mais elle était nécessaire, c'est d'opposer la fiction à l'action. J'ai toujours défendu le pouvoir de la fiction et je le défendrai toujours parce que je pense que, enfin, je sais, on est constitué d'histoire. Tout est histoire.
Tout est
ce qu'on se raconte. Et donc, il est nécessaire par ces fictions et par ces nouvelles fictions, par ces récits, c'est une manière, en tout cas, ça peut être un outil politique. Maintenant, aujourd'hui, j'avais besoin aussi que ces générations-là, que ça soit les enfants, que ça soit les jeunes adultes, puissent opposer aussi la question de la fiction à la question de l'action. Mais si vous avez vu le spectacle, ça ne se termine pas très bien. Donc ce n'est pas ce que je leur mets dans les mains. Ne leur dis pas, voilà.
Dernière question, Caroline Nguyen. Liberté, égalité, fraternité. Votre définition de la fraternité?
Je pourrais pas vous donner une définition là universitaire ou didactique, et d'ailleurs c'est pas, enfin voilà, par contre ce que je peux dire c'est que liberté, on voit ce que c'est, égalité, on voit ce que c'est, fraternité, justement en fait il y a une zone un peu trouble qui m'intéresse et qui fait qu'en fait ça m'a mis aussi en récit. Je suis d'accord avec totalement avec ce que dit Anne-Cécile sur tout d'un coup ça, ce trouble crée de la fiction, en fait crée de l'histoire pour moi. Donc peut-être par contre une chose que je pourrais dire sur ce que moi je peux retenir de la fraternité, c'est que c'est quelque chose qu'on compare beaucoup à la solidarité. Et la solidarité, qui est quelque chose évidemment de merveilleux, mais c'est quelque chose qui se solde ici et maintenant avec nos contemporains. C'est-à-dire on est solidaire avec quelqu'un qui tout d'un coup doit s'inscrire sur Doctolib et qui sait pas comment faire, je vais l'aider. Tandis que la fraternité finalement peut défier le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de fraternité même 200 ans plus tard. Et donc je donne l'exemple de cette femme, Christina Cataneo, qui est en fait médecin légiste en Italie et qui en fait essaye comme ça d'identifier des corps qui n'ont pas pu avoir de sépulture. Et existe dans son laboratoire des personnes qui ont coulé en mer actuelles, mais aussi des corps qui n'ont pas été identifiés en 1500 et qui a encore quelque chose à rétablir même 600 ans plus tard.
Et il y a cette notion de fraternité à travers les époques. Merci à toutes les deux d'être venues au micro de France Inter, Fraternité Kingdom au Festival d'Avignon, et puis bien sûr en tournée à partir de la rentrée pour toutes les deux. Dans un instant, une directrice de théâtre, Laetitia Mazzolini, et un directeur aussi, Sébastien Benedetto, pour parler du festival Off. Le temps qu'il s'installe, parole d'acteur. Rencontre dans le théâtre de Laetitia Mazzolini, justement. Gérald Dumont, seul en scène le matin à 11h45 pour un spectacle qui s'appelle Parcours. Et ce qui est bien avec le théâtre, c'est qu'on commence par une discussion légère et puis tout d'un coup, le réel surgit. Gérald Dumont, hier matin, juste avant son spectacle.
Alors là, je viens de faire mon italien, je me suis chauffé la voix, j'ai bien articulé pour pas que je bafouille tout à l'heure. Et qu'est-ce que maintenant? Puis maintenant, j'attends les gens, puis je vais jouer. Ce spectacle s'appelle Parcours, c'est un spectacle que j'ai créé suite à une envie. Il se trouve que ça fait 3 ans maintenant que je tourne le spectacle de Charbes qui s'appelle Être aux escrocs de l'islamophobie, qui font le jeu des racistes de Charbes. Et c'est un spectacle qui joue sous protection policière. Et donc, ça faisait 3 ans que je suis sans arrêt entouré de policiers à chaque fois que je joue. Et j'ai rencontré beaucoup de policiers, mine de rien. Moi qui étais plutôt tout le monde en mer de la police, tout le monde déteste la police, du coup j'ai rencontré des gens et ça m'intéressait ce milieu de la police. J'ai rencontré une policière qui s'appelle Fatia, enfin que j'ai appelée Fatia, qui est une jeune femme issue de l'immigration, qui a failli être mariée de force et qui pour s'émanciper est devenue policière. Voilà, elle s'est présentée sous forme d'émission de radio.
C'est quoi les journées à Avignon?
Ça dépend, je pense que chacun a ses journées différentes selon l'heure où on joue. C'est vrai que, par exemple, quand on joue le matin, on a moins tendance à se faire une grosse chouille la veille, par exemple. Mais je pense qu'il y a des compagnies, quand je jouais, par exemple, en fin de journée, on a plus tendance à se prendre des grosses chouilles le soir. Mais après, on est vraiment là pour bosser, hein. C'est-à-dire que, c'est faut bien reconnaître qu'Avignon, c'est un marché. C'est là pour montrer son travail. C'est là pour essayer de le diffuser, de rencontrer des professionnels. Après, je crois aussi, c'est de, il y a aussi une notion de plaisir quand même. Enfin, c'est pas qu'une foire, hein.
Gérald Dumont, rencontré hier lors de nos pérégrinations dans les rues d'Avignon avec Sarah Guibaudot et Stéphane Capron. Tiens Stéphane, puisqu'on parle d'acteurs...
Et de diversité,
une nouvelle pensionnaire à la Comédie Française.
Oui, c'est la toute dernière nouvelle de la fin de matinée. Séphara Pondy a été engagée en tant que pensionnaire à la Comédie Française. C'est vraiment une comédienne extraordinaire. Elle fait partie de ces comédiennes qui ont bénéficié du programme de formation d'acteurs premier acte au Théâtre National de la Colline. C'est un programme qui est destiné aux jeunes qui n'ont pas accès au grand conservatoire d'avoir un pied dans le métier. Ouais. C'est une comédienne éclatante, au tempérament explosif. C'est une sacrée recrue pour la maison de Molière.
Alors le Off d'Avignon en chiffreront 1 millier de spectacles cette année. Ce Off qui s'est ouvert hier. Alors 1 millier, c'est énorme. C'est moins que d'habitude. En 2019, on était plutôt autour de 1500. Et c'est dans ce festival-là que l'on examine le mieux le paysage du théâtre après les mois de crise que l'on vient de traverser. Deux invités au micro du 13-14 pour en parler. Bonjour Sébastien Benedetto.
Bonjour.
Directeur du Théâtre des Carmes, président de l'association Avignon Festival et Compagnie qui gère, disons-le comme ça, le festival Off. Et bonjour Laetitia Mazzoleni.
Bonjour.
Directrice du Théâtre Transversal. Un point commun, me semble-t-il, parmi d'autres, entre vous deux, vous programmez dans le cadre du Off pas moins de 11 spectacles, chacun, tous les deux, je ne me trompe pas. Comment fait-on 11 spectacles en une journée, Laetitia Mazzoleni, dans deux salles, en ce qui vous concerne?
Voilà, c'est ouais. Ce que j'allais dire. Moi, j'ai deux salles, alors que Sébastien en a qu'une. Mais Sébastien fait des hors les murs, donc voilà, ça se rejoint. Comment on programme? Ouais. C'est beaucoup de boulot.
Ouais.
On jongle, mais finalement, pour le Off, c'est du petit.
D'accord.
Voilà, les salles n'arrêtent pas d'augmenter leur nombre de créneaux, passent de 7 à 8 à 9 pour certains et nous on est à 5-6 donc ça laisse quand même du temps pour les artistes pour s'installer.
Avec la particularité cette année Sébastien Benedetto que entre chaque spectacle il faut 40 minutes pour aérer la salle à cause de Dame Covid.
C'est ça, c'est ouais. Le protocole qu'on a mis en place avec la préfecture.
Ça veut dire moins de créneaux. Oui. Forcément, un fonds de soutien sera mis en place pour dédommager certaines salles ou compagnies qui pourront moins jouer.
C'est ça, le ministère va suivre l'affaire et venir aider les théâtres qui seront en difficulté à l'issue du festival. Ils ont souhaité attendre de voir comment ça se passe.
Moins de créneaux, est-ce que l'un et l'autre, directeur de théâtre, vous avez la tentation d'augmenter le prix que vous faites payer aux compagnies qui jouent chez vous pour compenser les pertes des mois passés dont on va parler dans les minutes à venir?
Mais quelle drôle d'idée. Non, j'ai même baissé.
Vous avez baissé?
J'ai même baissé. On sait que c'est un festival particulier. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on ne savait pas si on allait passer en jauge pleine ou si on allait rester sur les 65-70%. Même si on est en jauge pleine, on ne sait pas comment va réagir le public. Donc et les compagnies surtout ont été très fragilisées avec cette année et demie. Moi, j'ai une de mes compagnies qui avait fait le festival avec le même spectacle avec Noir et Humide en 2019, qui avait eu une tournée de 20 dates suite au festival et toutes les dates se sont annulées, il leur est resté une date. Donc ce sont des compagnies qui ont été très fragilisées et nous, notre rôle, je pense que Sébastien ne me contredira pas parce qu'on est vraiment dans la même énergie, notre rôle c'est de venir en soutien de ces structures et non, on n'imaginait pas dire vous allez payer plus cher.
Je dis ça parce qu'on peut lire à droite, à gauche, qu'il y a ce risque-là, Sébastien Benedetto.
Alors, moi, je suis un théâtre, on va dire, semi-public, donc ouais. Je suis même en okay. co-réalisation, donc voilà, je ne partirai pas sur ce chemin-là, mais quand même, la majorité des théâtres a joué le jeu, et en fonction des jauges, a proposé des réductions, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment d'augmentation de prix.
Pourquoi moins de spectacles cette année dans le Off? Parce qu'il y en avait trop, à cause du Covid, parce que des compagnies ont choisi de ne pas venir
par
à Avignon?
Par la force des choses, mathématiquement, avec les espacements ouais. de créneaux, forcément, il y en a moins. Par le timing des créations qui sont venues entre-temps et des compagnies qui ne voulaient plus venir. Donc après, moi,
pourquoi ils ne voulaient plus venir? Elles se disaient qu'Avignon, ça valait pas le coup cette année?
Non, j'ai une compagnie qui a fait une création entre-temps, qui devait revenir, mais qui ne voulait pas revenir en arrière. Donc il y a eu ce jeu-là aussi. Il n'y a pas que l'aspect économique, il y a aussi l'aspect du timing des créations qui est rentré en ligne de compte. Mais voilà, très honnêtement, moi je pense que c'est peut-être l'exemple qu'on devrait suivre dans le futur, c'est trouver un moyen d'accompagner les théâtres pour rester à ce nombre de créneaux. Moi je suis à 5 et c'est un confort pour les artistes. Ça devrait être normal pour les artistes d'avoir le temps de se préparer, de s'installer et pas un confort. Donc voilà, c'est un travail à faire.
Laetitia Mazzoleni là-dessus?
Oui, moi je rebondis sur ce que dit Sébastien par rapport aux compagnies, parce que je dirige également une compagnie, je suis metteur en scène, ouais. et ma création 2020-2021 qui devait faire le festival n'a pas vu le jour. Ouais. Elle sera là en 22, et si je ne fais pas le festival cette année en tant que compagnie, ce n'est pas par crainte d'un festival en Berne, c'est que tout simplement avec une comédienne parisienne et moi à Avignon en période Covid et avec les annulations et les reports, au fur et à mesure on a déplacé nos temps de répétition et on a fini par dire on reporte d'un an la création parce que c'est pas possible.
Stéphane.
Et puis moins de spectacles, Sébastien Benedetto, parce qu'il y a aussi moins de théâtres, il y a des théâtres qui ont fait le choix de rester fermés.
Oui, quelques-uns. Alors on est quand même à 115 théâtres, qui n'étaient pas loin de 129, je crois, de 2019. Donc voilà, on a quand même beaucoup de lieux. Mais après, 1070, c'est quand même un bon chiffre. Ouais. On a toute la diversité du off. Voilà, ça, je pense que c'est important. C'est l'ADN du off, c'est l'ouverture, il y a toute la diversité. Donc après, c'est pour ça que je dis, moi, c'est un chiffre vers lequel on devrait revenir. Et j'espère qu'on trouvera les moyens d'accompagner tout le monde. Voilà, pour baisser le nombre de créneaux et pour accompagner au mieux les artistes et les compagnies qui viennent. Je pense que c'est vraiment le but, ce vers quoi on doit tendre.
J'étais vraiment persuadée, moi, qu'on serait en dessous des 1000 spectacles. J'étais étonnée qu'il y ait quand même autant de spectacles. Donc c'est bien preuve que les gens veulent revenir sur scène, veulent montrer leur travail et sont motivés.
Laetitia Mazzolini, on arrive déjà quasiment au terme de cet entretien. Ce que les mois de crise vous ont appris, quels enseignements vous en tirez, et s'il y a une piste de réforme, de changement pour le paysage théâtral, ce serait quoi ?
C'est un grand mot, ça. Je prends pas la responsabilité de parler de changement théâtral. Moi, ça m'a permis de beaucoup plus accompagner les artistes, parce que le théâtre étant fermé, j'ai tout un tas de compagnies avec qui j'ai l'habitude de travailler, et quand on a des spectacles, des représentations de prévues, ils rentrent un peu entre les trous pour des répétitions, pour des temps de résidence. Là, le théâtre était fermé. J'ai envoyé à tout le monde un message en disant si vous avez envie de tester n'importe quoi, même des choses qui après ne verront pas le jour, mais en tout cas, utilisez le théâtre comme un laboratoire, venez. Et ils m'ont pris au mot, ils sont venus. J'ai passé un an avec des artistes dans le théâtre, voilà, toute l'année. J'avais vraiment pas l'impression d'être fermée.
Moment d'échange important aussi pendant cette crise. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
D'être venus. Théâtre Transversal, Théâtre des Carmes, évidemment ouvert et ô combien actif le temps de ce festival jusqu'à la fin du mois. On ne pouvait pas quitter Avignon sans saluer celui qui en est le directeur pour un an encore. C'est lui qui assurera la programmation de l'année prochaine. Avant de passer la main à Thiago Rodriguez, Olivier Py nous a rejoint hier dans la cour du cloître Saint-Louis où est installé le QG du festival. Il émanait de lui ce mélange de fatigue et d'énergie nerveuse des débuts de festival, Stéphane. Un festival pas tout à fait comme les autres cette année. Le théâtre a repris. Est-ce exactement comme avant ? C'est la première question que je lui ai posée.
Non, c'est pas exactement comme avant parce que nous avons quelques consignes sanitaires. Et aussi parce que cet arrêt nous a jeté dans la conscience que le fait qu'un rideau se lève, ça ne va pas de soi, que c'est difficile, que c'est l'union de beaucoup de forces collectives. Alors je crois qu'il y a quelque chose qui est là cette année, qui est très présent. On est d'autant plus émerveillé par simplement le fait qu'un spectacle ait lieu. Et ça, là, je sens quelque chose dans l'air de tout à fait nouveau, je dirais même d'originel. On a l'impression qu'on est retourné au premier festival quand rien n'était sûr, quand rien n'était acquis.
Et c'est un état d'esprit qui peut durer ?
Il durera si une jeunesse prend le relais, à la fois des œuvres, mais aussi des spectateurs.
Ça vous inquiète que la jeunesse prenne ou pas le relais ?
Ah, c'est un souci premier, je crois. Le théâtre va être défini par la jeunesse, évidemment. C'est fondamental. Regardez, si on arrive cette année à la parité, c'est parce qu'il y a eu de jeunes artistes qui sont arrivés sur la scène, et des jeunes artistes avec des E, des jeunes porteuses de projets qui font qu'on arrive à cette parité. Il faut tout faire pour que la jeunesse vienne de plus en plus nombreuse et se saisisse de ce festival qui lui appartient.
Le fil rouge cette année de la programmation, c'est cette formule « se souvenir de l'avenir ». Et moi, je me souviens à quel point on a parlé du monde d'après tout au fil des mois passés. Pourquoi ce choix, ce souvenir de l'avenir? Qu'est-ce que ça raconte?
Évidemment, c'est un thème qui a été choisi l'année dernière au moment le plus déprimant, c'est-à-dire au moment de l'annulation. J'avais dit aux équipes, écoutez, on annule, mais souvenons-nous de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les utopies ne sont pas mortes. D'ailleurs, Avignon est une utopie, c'est une utopie réalisée.
En quoi c'est une utopie, Avignon?
Oh, ben, quand même, des œuvres exigeantes, des rencontres extraordinaires, de la pensée presque palpable et incarnée à des tarifs souvent en dessous de 10 euros, avec 50 000 places gratuites, et un public authentiquement populaire, c'est-à-dire pas du tout construit sur une élite ou pas du tout élitaire. Ben oui, c'est une utopie. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai hérité de cette utopie. Mais je suis toujours aussi émerveillé de voir que oui, le public est là, fervent pour des œuvres qui sont quelquefois pas faciles et quelquefois peut attendre sous la pluie pendant une heure pour écouter La Cerisée de Tchekhov. Bah, ça me donne confiance dans l'humanité quand même.
Et Hamlet, comment s'intègre-t-il dans ce fil rouge, ce souvenir de l'avenir?
Hamlet est un homme qui se sent toute la responsabilité du monde, qui sent qu'il faudrait faire quelque chose puisque le fantôme de son père est venu lui dire « Fais quelque chose de ta vie ». Mais voilà, il est comme vous et moi. Il entend bien qu'il faudrait faire quelque chose de sa vie, qu'il faudrait vivre plus dignement, qu'il faudrait se consacrer à quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus juste. Mais il ne sait pas comment faire. Ce que Shakespeare nous a apporté, c'est quelquefois la part d'impuissance ou quelquefois l'immobilité que nous avons face à notre devoir. Donc oui, à chaque génération a son Hamlet, chaque époque a son Hamlet, mais chaque fois, ça nous ramène à notre devoir le plus intime.
Votre avenir à vous, un dernier festival l'année prochaine, et après, est-ce qu'il y a quelque chose, comment dire, d'un peu angoissant après 8-9 ans à la tête de ce magnifique festival, à se dire, il y a une page blanche devant?
Mon avenir, mais j'en ai pas. Voilà, je ne sais pas, j'en ai pas. Je ne sais même pas comment on peut vivre loin d'Avignon, et je ne sais pas. Mais je ne suis pas angoissé, je suis dans l'ouvert. J'ai pas du tout peur de l'avenir, j'ai beaucoup plus peur du passé.
Avignon, vous y vivez, Olivier Py. Racontez-moi comment cette ville a traversé les mois qu'on vient de passer et quel rôle le théâtre a joué, théâtre fermé, mais néanmoins une activité qui demeure. Quel rôle a joué le théâtre pour aider Avignon à traverser cette période?
Le poumon économique de la ville, c'est le festival. Oui. Donc j'ai vu pendant l'année, évidemment, des restaurants qui ont fermé, des commerçants qui ont baissé le rideau de fer. Et c'est très douloureux. La ville a particulièrement mal vécu cette annulation, donc elle est particulièrement heureuse aujourd'hui. C'est une ville extraordinaire qu'Avignon, mais c'est une ville très pauvre. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est tellement belle. C'est beau comme Florence, mais c'est une ville très pauvre. C'est aussi une ville qui est exemplaire dans le fait que la culture, c'est rentable, que la culture, ça crée du vivant, et que la culture, c'est pour tous. Une ville connue dans le monde entier pour son festival. C'est extraordinaire. Il y a ici à la fois un patrimoine unique au monde, le Palais des Papes, mais il y a aussi chaque année l'invention de la créativité du monde entier qui vient se ressourcer à Avignon. Quelle merveille. Mon Dieu, que j'aime Avignon.
Olivier Py, entretien enregistré hier et nous avons parlé d'Hamlet puisqu'il propose un feuilleton théâtral Hamlet à l'impératif dans le jardin de la médiathèque Sécano. C'est aussi notre feuilleton à nous dans le 13-14 avec un certain Stéphane Capron. Le dernier épisode, demain, nous allons à Cannes à présent.
France Inter, le 13-14.
Et oui, un autre des grands festivals du moment. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Bruno Duvic.
Troisième jour de festival sur la Croisette, un de moins que dans le Palais des Papes. Votre météo cannoise de ce jeudi, François Ozon, présentait hier soir un film qui aborde le grave sujet de l'euthanasie. Tout va bien se passer, c'est avec Sophie Marceau et André Dusselier. Ça vous inspire quel bulletin météo, Laurent?
Eh bien, ici, la météo ne faiblit pas, 26-28 degrés. Hein. Mais côté festival, effectivement, c'est plus contrasté, parce que les avis divergent sur ce nouveau film de François Ozon, Tout s'est bien passé. Les uns font grise mine en lui trouvant horreur, désert de dossier de l'écran, sans qu'il soit hélas possible d'avoir Guy Darbois au standard. Les autres, dont je suis autant vous le dire, Bruno, affichent la mine réjouie et bronzée de ceux qui ont ri de bon cœur à certains moments de ce film, dont le sujet central est en effet l'euthanasie. Ozon adapte, en le gardant, son beau titre, le beau titre du livre que la romancière Emmanuelle Bernheim a consacré à la fin de vie de son père. Et quel père ! tyrannique, père de famille et homosexuel déclaré, mari, père et grand-père carrément misogyne, malade détestable et bavard impénitent quand il faudrait se taire pour cacher ses intentions hors la loi française. Car oui, cet homme incarné par André Dussolier a décidé de mourir dans la dignité en faisant appel au service d'une célèbre association suisse. Mais comme il est aussi décidé à enquiquiner les siens jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de la ciguë helvète qu'on lui proposera, il se tourne vers sa fille tout à la fois chérie et détestée pour préparer son départ définitif. Et elle, c'est Sophie Marceau. Absolument impeccable. Mais on sait depuis belle lurette, Causon est un merveilleux directeur d'acteurs. Et d'ailleurs, Géraldine Pellas, dans le rôle de l'autre fille de ce vrai faux roi lire parisien, est tout aussi bluffante de justesse et d'intensité. Alors on se demande ce qui peut déranger à ce point certaines et certains qui n'ont rien à redire quand Florian Zeller sort la grosse artillerie du pathos métaphysique sur un motif proche. Peut-être parce que Ozon, fidèle à Bernheim, est dans la posture inverse, en cherchant sans cesse le point de rupture entre le trivial et le douloureux, l'odieux et le sensible, l'inacceptable et l'inévitable. Sans cacher non plus combien, pour l'instant, cette forme de suicide assisté représente une inégalité sociale aussi supplémentaire qu'intolérable. Reste le portrait d'un homme à qui on ne peut rien refuser et à qui finalement on voudrait bien ressembler, au moins en ces circonstances-là. Tout s'est bien passé, dit Ozon, chez Fritz Lang, cela donné, l'exercice a été profitable, monsieur.
Laurent Delmas en direct de Cannes, chaque jour dans le 13-14.
Ceci est un message de l'établissement français du sang.
Le sang.
Un produit qui sauve des vies.
En donnant votre sang, vous aidez chaque année 1 million de malades.
Pourtant, aujourd'hui, nos réserves sont faibles. Nous avons besoin de vous. Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang dès aujourd'hui.
Don de sang, maintenant c'est urgent.
Trouvez ou donnez sur le site de l'établissement français du sang.
C'est le moment de faire le plein d'optimisme.
Comme chez Fiat.
Ne me dis pas qu'il t'offre le plein d'essence.
En plein dans le mille. Fiat offre 300 euros carburant, de quoi partir en vacances, l'esprit libre.
L'essence même de l'optimisme. Et si on veut pas mettre tout son argent dans sa voiture?
Panda, des 6 990 euros, climatisation, 5 portes, hybride.
Et des garanties?
Oui, Fiat est la seule marque à garantir sa gamme 10 ans. Rassuré?
Optimiste!
Jusqu'au 13 juillet, faites le plein d'offres pendant les optimismes de Fiat. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Pour Panda 1.0, 300 euros en carte carburant. Offre en particulier, c'est livraison avant le 31 juillet, hors 500 électriques. Dans le réseau participant, détails sur fiat.fr.
Fiat.
Le 13-14 en direct d'Avignon s'achève. Merci à Sarah Guibaudot, Alexandra Brouillet, Stéphane Capron, Éric Audra, Franck Malabry, Julie Garraud, Martin Guénard, Jason Taous. Merci à l'école des Ortolans qui nous a accueillis ici. Et puis dans cette ville d'Avignon, je voudrais avoir une pensée pour Mathieu Sarda qui aimait tant le théâtre, compagnon de radio si important à France Inter, lui qui imaginait, défendait les plateaux d'invités. Mathieu nous a quittés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Que ses proches sachent que son souvenir reste très vif.